This is the Humans Link Audio Experience. The greatest.
Bonjour à toutes et à tous, ici Valentin French de humanslink.com et je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle pause café en ce vendredi. Il est 13h30 ici à Montréal et en Guadeloupe, 19h30 en France. Dites-nous d'où est-ce que vous nous suivez, si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour nous encourager. Sur YouTube, à vous abonner dans ce coin-là à la chaîne. Avec HumanSync en ce moment, on propose du contenu plusieurs fois par semaine. Donc la petite clochette pour recevoir les notifications, c'est important. Dites-nous d'où est-ce que vous nous suivez. N'hésitez pas à écrire en commentaire. Il y a Jean-Jacques French de HumanSync et moi. On regarde le fil de commentaires. Donc tout au long de cette émission, vous pourrez poser des questions. Il y a Sabrina ici qui est connectée. Salut Sabrina, qui est à Jarry en Guadeloupe. Donc tout au long de l'émission, si vous avez des questions, vous voulez interagir, n'hésitez pas à nous écrire. On va pouvoir faire remonter les commentaires comme d'habitude. Il y a Jen de Martinique, salut. D'ailleurs, petite nouveauté aujourd'hui que je vais partager avec vous, pour les différents lives qu'on fait avec HumansLink, vous pouvez nous texter via WhatsApp au numéro qui s'affiche en ce moment à l'écran, c'est le +33 1 87 16 52 11. Et donc c'est un numéro qui est exclusif pour les lives. Donc, n'hésitez pas à nous écrire là-dessus sur WhatsApp, on pourra communiquer avec vous. Il y a Marianne qui nous dit « Bonsoir, je suis à Nice ». Salut Marianne, on te salue. Bon, mais super les amis. Donc, tous ceux qui viennent d'arriver maintenant, ici c'est Pause Café. On est parti pour une heure de discussion. Donc, l'objectif de ce live et de HumansLink est de créer les organisations dont l'humanité a besoin. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt polémique, mais aussi d'actualité, la notion de vaccin et à quel point c'est un choix de société ou pas. Donc, on va avoir plusieurs pistes de réflexion. Et pour ce faire, je réinvite pour la troisième fois sur ce live un médecin généraliste, clinicien, avec une orientation en médecine naturelle. Il est aussi nutritionniste et médecin de santé publique. C'est Frédéric Costa. Bonjour Frédéric.
Bonjour Valentin.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Super, donc là, ça va très très bien. Tu es à Paris en ce moment?
À Paris, avec un temps absolument estival et puis une ambiance générale qui est à la détente et aussi à plus d'ambiance estivale également.
Ouais, super, à Montréal, c'est un peu pareil. Il commence à faire très très chaud. On a eu plus ressenti 40 degrés hier. Donc ça y est, les parcs commencent à se remplir, les gens, bon, malgré les règles de distanciation sociale, on sent que l'ambiance est se veut vers un retour à la normale. Et d'ailleurs, Frédéric, aujourd'hui, on voulait parler donc c'est la troisième fois que tu viens sur le live, on avait pu parler de santé publique la première fois, ensuite on avait réussi à approfondir le sujet de nutrition, à quel point la nutrition a un impact sur notre système immunitaire. Et en ce moment, avec le déconfinement, bon, c'est un sujet qui existe depuis longtemps, mais qui revient sur la table en force en ce moment, c'est la notion de vaccin contre le coronavirus, mais la notion de vaccination en général. Et donc aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on puisse se plonger là-dedans et qu'on puisse avoir des clés de réflexion pour pouvoir naviguer dans ces sujets, mais aussi sur l'aspect peut-être plus macro de comment notre société fonctionne. Donc s'il y a des pistes là-dedans. Et donc, peut-être une première question pour toi, c'est, je vais jouer pendant cette pause café, peut-être le rôle du patient, alors idéal, je ne sais pas, mais du patient auquel tout le monde pourrait se reconnaître, et donc quelqu'un qui a une connaissance inexistante ou moyenne du sujet, et je vais jouer ce jeu-là, justement, pour avoir une conversation avec toi, et que tu puisses... utiliser ta pédagogie qu'on te reconnaît pour partager des idées là-dessus. Du coup, une première question, le vaccin, c'est quoi et pourquoi? Pourquoi c'est un sujet, excuse-moi, je vais reformuler, pourquoi le vaccin aujourd'hui est un sujet polémique?
Oui, alors en effet, le vaccin est aujourd'hui un sujet polémique parce que ça engage plusieurs niveaux de réponse. Le premier, le plus général, mais sur lequel je pense qu'on va revenir, c'est la question de l'acte un petit peu magique qui est conféré au vaccin. Et je pense que là, il faut attirer vraiment notre attention l'attention des auditeurs sur le fait que on en parle comme quelque chose qui est vraiment radical, univoque, c'est la solution. Et donc ça nous oriente déjà vers une posture, vers des choix individuels, mais aussi des choix de communauté qui donnent une sorte de tendance, des choix sociaux en fait, hein, c'est-à-dire la solution, elle vient de l'extérieur. La solution, elle arrive par une espèce de descente, non pas de l'Esprit Saint, mais d'une injection, et d'une injection vaccinale dont on pense qu'elle va être à tous les coups salvatrice. Donc, on ne va pas rentrer dans la polémique, l'idée n'est pas du tout de rentrer dans la polémique, mais l'idée c'est de faire réfléchir les personnes, et du coup faire réfléchir sur cette notion qui est l'intitulé de l'émission d'aujourd'hui, c'est le vaccin, un choix de société. Hein. Et en plus, tu as rajouté à juste titre la question de la peur. Hein, notion de peur. Donc, le vaccin, est-ce que c'est la solution unique ? On va en reparler, mais déjà, il y a donc un côté sociétal. Qu'est-ce qu'on veut comme société? Qu'est-ce qu'on veut comme système de santé? Et comment on veut être soigné? Et puis, il y a un niveau, pourquoi la polémique autour du traitement vaccin? Et là, c'est un autre niveau qui est un petit peu, un niveau qui fait appel à un petit peu d'expertise médicale, et qui est comment ne pas s'interroger sur comment ça marche un vaccin? Alors, ça marche en faisant fabriquer des anticorps, d'accord. Mais est-ce que ça marche à tous les coups? Est-ce que ça marche pas à tous les coups? Est-ce qu'il y a des effets indésirables? Est-ce qu'il y a des adjuvants qui peuvent être toxiques? Est-ce qu'on peut le préconiser à n'importe quel âge? Est-ce que ça a les mêmes effets? Est-ce qu'on peut en utiliser un ou plusieurs à la fois? Et quels effets ça peut avoir? Voilà. Donc, il y a vraiment deux niveaux différents sur lesquels, si tu veux, on va pouvoir répondre.
Bien sûr.
On va faire dans l'ordre pour pas que ce soit trop complexe, hein. Mais ces deux niveaux sont très importants. C'est l'implication, quand on parle de vaccin, on met l'individu dans une posture particulière qui est je subis d'une certaine manière un traitement qu'on me propose, qu'on va me proposer, je suis assez peu acteur et surtout, je vais bénéficier d'un traitement qui n'est pas du tout personnalisé, qui n'est pas individualisé, qui va être un traitement de masse. Que ce soit qui que ce soit, ce sera le même.
C'est ça. Alors, justement, est-ce que ce n'est pas ça qui… C'est là-dedans qu'on va retrouver la polémique. Ce que j'entends, c'est qu'il y a un paradigme dans ça, c'est la vaccination aujourd'hui. On parle de vaccination de masse, on parle aussi d'immunité de masse. Donc, peut-être qu'on pourra revenir sur qu'est-ce que c'est. Et pourquoi c'est un terme important. Mais ce que j'entends, c'est déjà l'idée de se dire, bon, c'est un peu la pilule magique, je la prends et ça règle le problème systématiquement. C'est le côté un peu magique qu'on peut penser. Ouais.
Restons dans ce domaine-là, restons dans le domaine un petit peu médico-médical du vaccin. Est-ce que c'est un outil magique ? Ben non, c'est comme tous les traitements. Il y a des traitements qui vont merveilleusement bien marcher pour certains patients et il y en a d'autres qui vont moins bien marcher. Le vaccin, c'est pareil. Le vaccin, c'est une stimulation. On injecte, on introduit ce qu'on appelle un antigène, ça veut dire viral ou bactérien, c'est-à-dire un microbe d'une certaine manière, mais un microbe qui n'est plus méchant, qui est atténué. Un morceau de virus ou un morceau de bactérie ou un microbe, donc virus ou bactérie, qui est atténué. Donc, il y a différentes formes de vaccins. Hein,
parfois, ils sont morts, parfois, c'est découpé, exactement. Comme tu dis, puis parfois, ils sont carrément vivants
exactement.
Et actifs.
Vivants, mais inactivés. Il y en a d'autres qui sont carrément morts. Ce sont des fragments de membrane ou de génome. L'ADN de ces micro-organismes, l'ARN ou l'ADN, peu importe d'ailleurs. Et du coup, avec cette arrivée de cette information, le corps, il va découvrir cette information et il va dire « Ah, mais ça ne m'appartient pas, ce n'est pas moi et je vais développer une défense contre cette nouvelle stimulation, ce corps étranger. »
Ce corps étranger, oui, c'est ça. Voilà.
Et le principe, d'ailleurs, est excellent. Hein. Le principe, donc, qui est très ancien, qui date du XVIIIe siècle, le premier à avoir pensé ça, c'est Jenner, autour de la variole. Il a eu l'idée d'aller récupérer des croûtes sur des mamelles de vaches qui avaient une maladie qui faisait des pustules qui ressemblaient étrangement à la variole. Il s'est dit, tiens, je vais récupérer ça, je vais gratter un peu, je vais faire des scarifications sur la peau de certaines personnes, je vais mettre ces petites croûtes sèches. Et en fait, il a eu une intuition pas possible, mais enfin, cela dit, il s'était rendu compte que certains paysans avaient développé une sorte de défense naturelle. Parce que c'était des paysans qui étaient au contact avec ces mamelles, qui étaient avec ces petites pustules. Et il a vraiment eu une idée géniale. Il s'est dit, tiens, ils sont en contact avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne sont jamais malades, eux? Et puis, voilà, de fil en aiguille, son raisonnement est arrivé jusqu'à cette intuition. Et on a découvert, donc un bon siècle plus tard, Pasteur arrive avec les vaccins et avec vraiment, d'ailleurs pas que Pasteur, hein, parce qu'on parle que de Pasteur, mais il a eu d'autres, mais pareil, on ne va pas rentrer dans l'histoire. Mais cela dit, ce sont des histoires polémiques justement, hein, parce que bon, bref. Et donc, on fabrique des anticorps. Et ces anticorps sont censés, c'est intéressant quand tu évoques cette question de vaccination, alors j'évoquais la question de vaccination de masse, mais tu évoquais la question d'immunité de masse. Justement, la vaccination cherche à déclencher chez le plus grand nombre d'individus une immunité répandue en grande quantité qui va faire que finalement le germe, le micro-organisme va refluer, n'aura plus les moyens de se développer, de s'installer, de se multiplier. Et finalement, l'infection va refluer. Et d'ailleurs,
l'idée ici, c'est que si moi je tombe malade et que les personnes autour de moi sont vaccinées, donc ces personnes qui me côtoient, donc je pourrais propager ce virus, mais ensuite ces personnes-là ne vont pas le propager parce qu'elles vont réussir à le bloquer, entre guillemets.
Ah oui, elles vont le bloquer. Et on considère qu'il faut un certain pourcentage de la population, je crois que c'est 70 ou 80%, mais je ne suis pas un expert de l'immunité à ce niveau-là, mais il y a un certain pourcentage qu'on doit atteindre en termes de vaccination pour conférer à une population globalement dans son ensemble une immunité qui garantit le fait qu'il n'y ait plus certaines épidémies. Voilà. Bon, mais on ne va pas s'attarder techniquement. Le souci, c'est que cette immunité de masse, comme son nom l'indique, elle demande à ce qu'on vaccine massivement. Et ce qu'on sait aussi par rapport à l'immunité et au système immunitaire, c'est que chacun va répondre d'une façon particulière à une stimulation antigénique. D'ailleurs, chacun va répondre d'une façon particulière à n'importe quelle maladie. Hein, que ce soit une maladie simulée à travers un vaccin ou une maladie normale, on réagit tous de manière différente. Et c'est là que c'est passionnant, que c'est intéressant, c'est qu'il faut comprendre, et c'est là où il faut attirer l'attention du public et de la population, c'est que le plus important, c'est pas le vaccin, c'est le terrain. D'ailleurs, ce sont les dernières paroles de Pasteur. Hein. Le microbe n'est rien, le terrain est tout. C'est le terrain qui est important. Et si cette information-là, on ne la donne pas au public, on ne la donne pas aux personnes, et les médecins ne la passent pas aux patients, on déresponsabilise le public, on déresponsabilise les patients, et on les met dans une posture où ils ne sont plus acteurs de leur santé. Tu sais combien cette notion est importante d'être acteur de sa santé, parce que quand tu es acteur de ta santé, tu vas justement fabriquer. Parce que tu es acteur, parce que tu es actif, tu vas justement fabriquer, être en mesure d'être sur une mobilisation de ton système immunitaire. Tu vas être sur quelque chose de positif. Tu ne vas pas subir, tu vas agir. Et ça, c'est très positif et très favorable pour le système immunitaire. Quand tu es acteur, tu peux décider en connaissance de cause et ça se passe par la tête. Mais ce qui se passe par la tête de positif, ça va avoir un effet positif sur le corps aussi. Donc, on n'est pas là en train, encore une fois, de dire vaccin ou pas vaccin. On est en train de dire le mot magique vaccin ne suffit pas. Et il faut que les médias arrêtent à propos du Covid, pour lequel d'ailleurs on risque de galérer pour trouver un vaccin. Et de toute façon, comme pour la grippe, il faudra changer de vaccin toutes les années si jamais c'est un virus qui s'installe durablement dans la population humaine. Donc, ce n'est pas ça la solution. Aujourd'hui, c'est pas ça. Ça a pu l'être, par exemple, pour la variole, dont on sait que c'est une maladie absolument terrible et dramatique. Ça a pu l'être pour la polio, exactement, également, pour le tétanos, bien sûr.
La rougeole ?
La rougeole, on va sur un terrain un peu glissant parce que La rougeole est probablement partie avec certaines autres maladies infantiles, de maladies infantiles, rougeole, rubéole, oreillon, qui participent à l'apprentissage de notre système immunitaire. Et ça, c'est aussi, mais tu m'emmènes sur un terrain, mais c'est intéressant de le partager aussi. On l'a déjà dit, je crois, dans une émission précédente, le système immunitaire, pour être costaud, pour faire face à la vie, au quotidien, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte et même très adulte, il faut qu'il apprenne. Et le système immunitaire, comme le système nerveux, et d'ailleurs ils sont en relation, Il adore apprendre, il aime apprendre, il adore ça. Et l'humain est caractérisé par ce goût de l'apprentissage. Mais le goût de l'apprentissage conscient, mais aussi végétatif, si on peut dire. Et du coup, la rougeole, probablement, et je finis sur cette digression-là, la rougeole, dans la petite enfance, avec des enfants qui sont en bonne santé, reste majoritairement, encore une fois, avec la rubéole, avec les oreillons, avec la varicelle, avec quelques maladies infantiles, très probablement des maladies qui marquent des étapes de maturation, de maturité du système immunitaire, et pour lesquelles l'enfant va faire une maladie, en général, en grande majorité, une maladie anodine et bénigne. En revanche, en effet, certaines épidémies de rougeole peuvent avoir des effets graves chez certains enfants qui sont dans un environnement particulier, qui sont immunodéprimés, qui vont être particulièrement sensibles à cette agression virale. Mais encore une fois, là, on rentre dans des domaines d'experts. Mais en tout cas, il faut du coup, mais ce débat-là nous amène, cet échange-là nous amène à dire, mais tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Le vaccin, c'est pas magique, ça marche à tous les coups, non. Ça va dépendre de l'âge, ça va dépendre du terrain immunitaire, de la capacité de réponse, du système, du statut nutritionnel de la personne. Une personne qui a un statut nutritionnel avec des oligo-éléments, des vitamines en bonne quantité, un tube digestif qui fonctionne bien, c'est une personne qui va bien répondre à cette vaccination, mais c'est aussi une personne qui va bien répondre à une agression virale ou bactérienne. Donc voilà, il faut avoir ces informations-là à la base.
Je réfléchis. En fait, ce que j'entends, c'est ce que j'entends ici, c'est que tu dis en fait, même pour donc chez les jeunes enfants, parce que quand on parle de vaccin, on parle de la vaccination automatique entre guillemets, enfin plutôt systématique chez les jeunes enfants. Mais là, j'entends quelque chose que tu dis, mais en fait, les maladies font partie quelque part des étapes d'apprentissage. C'est parce qu'on va les enfants vont découvrir un nouvel environnement et que leur système immunitaire n'a pas encore c'est autant de mémoire, de cellules mémoire, en fait, pour lutter sur certaines agressions extérieures qu'un adulte. Est-ce que tu veux dire qu'il y a la notion d'être de maladie peut avoir un aspect positif dans le développement du système immunitaire? Donc, en fait, il y a un intérêt à tomber malade?
Ah, mais évidemment, évidemment. Quand tu tombes malade en hiver, classiquement tu tombes malade en hiver, que tu es raplapla, tu es dans un environnement où, en principe, on devrait être à un certain rythme, qui est un rythme forcément plus lent, hein, qui est un rythme ralenti par les conditions hivernales quand on vit dans des pays froids notamment. On a besoin de s'ajuster à la saison. Et nous, on fait l'inverse. Hein, on continue le même rythme. D'ailleurs, en été, c'est pareil. On devrait s'ajuster à la saison de différentes manières. En hiver, on va manger plus. En été, on va manger moins. En hiver, on va dormir plus. En été, on va dormir moins, mais à d'autres heures. Enfin, il y a vraiment, pareil, ce serait passionnant de parler des cycles de l'humain si l'humain était à l'écoute réellement des cycles de la nature. Et c'est comme ça que la santé devrait être pensée au départ. Si tu veux, le souci aujourd'hui, c'est qu'on vit dans une société, à mon avis, on vit un âge d'or. Okay. C'est pas un âge d'or pour tout le monde. En tout cas, dans les sociétés occidentales, on vit un certain âge d'or. Et aujourd'hui, cet âge d'or, il faudrait pouvoir le partager avec tout le monde.
Ça, c'est qu'est-ce que tu entends par l'âge d'or dans les sociétés occidentales?
L'âge d'or, c'est que on a La plupart d'entre nous avons un toit. Je te ramène à la charte d'Ottawa.
Oui, bien sûr.
Nous avons un toit. La plupart de nous avons, et la définition de la santé de l'OMS, donc la plupart de nous avons un toit, la plupart de nous avons de quoi manger, la plupart d'entre nous avons de quoi nous soigner en Occident. La plupart de nous avons de quoi accéder à l'éducation, à la culture, au sport, à un travail. Donc, si tu veux, c'est un âge d'or parce que le système de santé est merveilleusement développé, est encore merveilleusement développé. La société offre à ces individus, quand ils ont accès à un travail régulièrement, et à un certain niveau de vie, et c'est pour ça qu'il est important d'aider les plus démunis pour qu'ils accèdent aussi à l'ensemble des richesses de la société. Mais la société offre aujourd'hui l'essentiel, on n'a pas besoin de plus. Et cet âge d'or, il faut le partager avec les plus démunis, bien sûr, mais surtout, il faut imaginer que si on est en bonne santé, moi je pense que c'est peut-être en partie, allez, on va faire plaisir à la faculté de médecine qui est très 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 pro-vaccinale, c'est en partie à des campagnes vaccinales, mais c'est surtout en partie lié à l'éducation, à l'hygiène, au travail, à l'apprentissage de certains gestes favorables à la santé, à l'alimentation. On est passé grâce, alors malheureusement on a basculé dans un autre excès, hein. L'industrialisation nous a fait basculer dans quelque chose sur lequel aujourd'hui il faudrait un petit peu faire quelques marches arrière, mais grâce à l'industrialisation, on a pu donner à manger à tous grâce à l'industrialisation de l'agriculture. Mmh.
Donc, oui, je pense effectivement dans l'Occident, en fait, on vit aujourd'hui mieux que les rois du Moyen-Âge, tout le monde.
Oui, mais oui. Mais oui.
En termes de confort et d'accès à différentes ressources. Et...
À l'époque, si tu veux, il y en avait très peu qui avaient accès à beaucoup et beaucoup qui avaient accès à quasiment rien. Hein, le système féodal, le système de servage. Et ça, jusqu'à l'après-guerre, hein, ça fait pas si longtemps qu'il y a une classe moyenne qui s'est développée en Occident. Bon, on va pas rentrer pareil dans ces notions-là, mais c'est intéressant de savoir, de se dire, mais oui, mais du coup, la santé, elle est liée à quoi? Mais la santé, elle est liée à l'eau courante, elle est liée à l'accès à l'alimentation, elle est liée à l'accès à l'habitation, elle est liée à l'accès aux droits sociaux, aux droits aux vacances. Les vacances, c'est un moyen aussi de se détendre, de faire du lien social. Donc, cet âge d'or qu'on est en train d'ignorer et dans lequel on est en train de basculer dans des excès qui nous entraînent dans la crise, dans le type de crise qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire trop de médicaments, trop de consommation, trop de vêtements, trop de biens, trop d'électronique, trop d'électromagnétique, de réseau, trop de chimie, de pharmacie, trop. Et ce trop, il faudrait pouvoir le mettre en balance pour que tout le monde en profite et qu'il y ait un peu pour tous. Et surtout, qu'on mette, pour revenir aux questions de santé, les personnes dans un enjeu de société qui souhaitent la santé pour tous, mais pas en uniformisant et en massifiant, parce que ce n'est pas la seule solution. Non, en proposant une santé personnalisée et individualisée. Mais ça, pour ça, il y a deux choses qui sont très importantes, sans doute plus de deux d'ailleurs, mais bon, j'en ai deux en tête.
Ouais.
C'est l'éducation des gens. Il faut éduquer les enfants à la santé. Et dès le plus jeune âge, il faut les éduquer à l'activité physique. En France, on n'est pas bon là-dessus. On n'est pas bon. On n'est pas bon parce que les bons en sport, ils sont valorisés. Les mauvais en sport, ils sont laissés de côté. Non. Développer dès le plus jeune âge des activités physiques pour tous qui peuvent intéresser tout le monde. C'est le béaba.
Oui, comme on le voyait d'ailleurs dans une autre pause café, tu as expliqué qu'on n'est pas fait pour être sédentaire. Donc il faut être dans l'activité.
Donc l'éducation, c'est l'activité physique, c'est l'éducation à l'alimentation, à une alimentation simple, saine, rustique, de base. Je ne vais pas revenir puisqu'il y a une autre émission au cours de laquelle on a parlé un peu plus de tout ça. C'est l'accès à l'éducation, c'est l'accès à la culture. Ça, ça nous rend en santé. Ça nous fait du bien à la tête et au corps. Et puis surtout, c'est l'accès à l'hygiène. Encore une fois, je le disais, à l'eau courante, à la propreté, à des connaissances que nous partageons. La santé aujourd'hui, le vilain microbe, c'est plus un vilain microbe. Et pour répondre, excuse-moi, j'ai pas répondu à ta question initiale. Est-ce que tomber malade, ça peut être utile? Mais oui, bien sûr. Parce que de temps en temps, le microbe, il vient pour nous mettre KO, pour nous dire stop, arrête-toi. En hiver, tu continues de travailler comme une brute. Eh bien, moi, je te mets à plat pendant une semaine. Et c'est pas le virus qui nous met à plat. C'est notre corps qui l'a, en quelque sorte.
Il n'est pas capable de.
Parce que le corps, à ce moment-là, il est down, il est fatigué, il est rétamé, le système immunitaire, il n'en peut plus, le tube digestif n'en peut plus, le microbiote, il est naze, on mange n'importe quoi, on s'est gavé, on a...
Donc, quelque part, c'est un signal que notre corps fonctionne, donc on est en santé, parce que notre corps fonctionne bien et nous dit, oh là, là, j'ai plus ce qu'il faut pour pouvoir être efficace.
On est entre les deux. On est à un moment où le corps, il est... Le microbe devient un allié pour le corps, il arrive dans le corps et bim, tu tombes malade. Tu fais un petit truc, hein, tu fais ta petite rhume, ta petite grippe, et tu n'as pas le choix. Tu te mets à la diète, tu te mets au repos, tu fais un petit jeûne hydrique ou un jeûne à base d'une monodiète avec des légumes. De toute façon, tu n'as pas faim, la nature elle est bien faite, tu es malade. Tu fais tout ce qu'il faut naturellement, comme n'importe quel animal que nous sommes des mammifères. Tu te mets au repos. D'ailleurs, je vais te dire, les meilleurs traitements, c'est le sommeil, c'est l'alimentation, on l'a déjà dit, l'aliment et le médicament, mais ne pas manger, ça peut faire du bien aussi, se mettre à la diète, l'activité physique, toujours pareil, on dit toujours à peu près les mêmes choses, mais le microbe, oui, peut t'aider, et je finis, après je te laisse me questionner comme tu veux, mais, oui, dans la petite enfance, oui, on sait, il y a des intuitions cliniques, mais il y a aussi à l'appui de ces intuitions cliniques, des recherches immunologiques qui disent oui, le système immunitaire du petit enfant, il se développe par étapes. La plus grande étape, c'est la maturation du tube digestif pendant à peu près les 8 premiers mois, la première année. Cette maturation s'effectue sur une base très importante, c'est la base de ce qui s'est passé lors de l'accouchement. Quand le bébé passe par la filière génitale, il récupère du microbiote de la mère, il récupère de la flore de la maman, et avec cette flore, le bébé, il va constituer sa propre flore, et grâce à l'allaitement, il va récupérer, il va se développer. Alors, pas d'angoisse, hein, pour les enfants qui sont nés par césarienne, de toute façon, ça se met en place aussi différemment, mais c'est pour ça que la proximité à la maman est importante. L'allaitement est fondamental, mais pour les mamans qui n'ont pas pu allaiter, pas d'angoisse. Il y a d'autres choses qui passent aussi à travers les soins qu'une mère prodigue à son enfant avec un biberon, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que l'optimum, c'est une maman en bonne santé, un accouchement par voie basse, un allaitement le plus prolongé possible, en tout cas au moins pendant, jusqu'à ce que le gamin ait des dents, puisque ce sont les dents qui disent « Ah, je vais diversifier mon alimentation, je suis prêt. » Donc, on va dire 6 mois, 8 mois. Et comme par miracle, c'est à ce moment-là que le tube digestif et a acquis une certaine maturité qui lui permet d'accueillir des aliments autres que le lait, mais du coup, lui permet de nourrir son microbiote et de garantir via le microbiote une immunité qui est prête pour vivre, des rencontres avec des virus, avec des bactéries et donc, pour construire une immunité.
Ce que j'entends, Frédéric, du coup, c'est que tu dis le vaccin. Alors oui, sur le principe, ça fonctionne. Maintenant, ce qu'il faudrait remettre en question, c'est peut-être le côté systémique parce que ce soit pour les vaccins ou un traitement ou n'importe l'alimentation, en fait, chacun est différent. Donc, c'est le côté systémique qui est peut-être à remettre en question. Et ce que j'entends aussi, c'est que tu dis le meilleur progrès en termes d'immunité ou de bien-être quand on parle de santé, le but de la santé, c'est le bien-être. Ne vient pas que de la vaccination ou que des progrès médicaux. Ça vient des habitudes de vie et de notre environnement. Tu parlais de le fait qu'on est tous en toi, qu'on a accès à de l'alimentation variée, qu'on travaille, qu'on ait les vacances, etc. Enfin, donc, il y a tout un ensemble d'éléments à ce niveau-là. Du coup, En ce moment, il y a beaucoup l'espèce d'ambiance de peur où on voit les gens qui portent des masques, les gens s'évitent, la distanciation sociale, etc. Et l'idée qu'on va nous donner, c'est bon, ben, on vaccine tout le monde et certaines personnes attendent qu'il y ait ce vaccin pour pouvoir se dire, OK, bon, là, je suis en sécurité et je peux me remettre à vivre normalement. En quoi c'est une manière de penser, mais il y a peut-être il y a une alternative dans cette approche.
Alors, tu as dit beaucoup de choses et je vais reprendre, j'ai noté,
Bien sûr.
ne pas oublier sur la question de la vaccination ou des traitements. Globalement, on vit une époque, parce qu'on est dans un système de santé qui est très développé, où, et ce n'est pas la vaccination qui est en cause, c'est le système de santé qui est comme ça, on est surmédicalisé. Et cette surmédicalisation, elle est source de ce qiatrogène qu'on appelle de maladies iatrogènes. Mais c'est très lié à la peur. C'est pour ça que c'est très intéressant d'évoquer ce point-là, parce que, en fait, comme on sort, tout à l'heure, je disais qu'une des choses les plus importantes, c'était d'éduquer les enfants dès le plus jeune âge. Si aux enfants, on leur apprend à avoir peur de tout, à avoir peur des animaux, domestiques ou sauvages, à avoir peur de la nature, à avoir peur des microbes, à avoir peur des virus, à avoir peur de l'eau, à avoir peur de tout. On se déconnecte de notre environnement. Et bien sûr que la solution, elle est forcément ailleurs et elle est forcément humaine et donc industrielle et donc synthétique. Et le réflexe naturel d'un système de santé qui est très développé, d'une humanité qui est très développée, en tout cas au moins en Occident, mais à mon avis elle est très développée, mais sur d'autres points de vue ailleurs, mais là on parle du côté système de santé, industrie, etc. Eh bien, le fait que ce soit très développé, on a tendance à surutiliser, surconsommer. Et c'est autant la faute ou la responsabilité des individus comme des médecins, hein. Donc, du coup, je fais deux fois une sorte de mea culpa, parce que si en tant qu'individu, tu vas chez le médecin en disant, ah, docteur, vous savez, ça fait 24 heures que j'ai mal à la gorge, il faudrait que vous me donniez un médicament, bah, le médecin, en toute bonne volonté, il va chercher à te donner un médicament. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le médicament qu'on va donner, c'est un antibiotique. La plupart du temps, encore en France, malgré tous les discours dont on parle, en disant, mais non, ça ne doit pas être systématique. Et cet antibiotique, il va aller flinguer le microbiote, la flore intestinale, et il va flinguer l'immunité. Donc, ça veut dire que le patient, tu es sûr de le fidéliser en lui donnant des antibiotiques à chaque fois qu'il vient te voir, alors qu'il aurait tranquillement attendu 3-4 jours chez lui. Attention! Je parle d'un mal de gorge, d'une petite fièvre, je ne suis pas en train de parler d'un infarctus. Hein.
Bien
Bon.
sûr, bien sûr.
On remet les choses dans leur contexte. Il ne faut pas déresponsabiliser les gens, au contraire, il faut les responsabiliser. Et c'est pour ça qu'il faut les éduquer à reconnaître ce qui est grave de ce qui n'est pas grave. Et surtout, à reconnaître ce qui est bon pour eux, pour leur santé. Donc, la surmédicalisation dans laquelle s'intègre la survaccination, c'est pas bon pour la société, c'est pas bon pour les individus, c'est pas bon pour la société, et ça donne des défaillances immunitaires. C'est clair. Il faut...
C'est le côté déresponsabilisé où c'est bon, ben je vais pouvoir aller prendre
Ah oui,
je vais chez le médecin et ça va être réglé. Et donc, moi, au final, c'est ça.
j'ai rien à faire. J'ai pas à remettre en question mes rythmes, j'ai pas à en remettre en question ma vie psychique ou psycho-affective, j'ai pas à remettre en question éventuellement mes rythmes de travail. J'ai pas à remettre en question mon alimentation, j'ai pas à remettre en question mes comportements. La semaine
C'est
dernière,
un pansement et c'est réglé.
j'ai eu
Ouais.
des patients qui arrivent et je leur dis à mes patients, je leur dis, je vous reçois, mais vraiment, je suis cool avec vous. Ça fait 17 ans que à chaque consultation, je leur dis, arrêtez de fumer, arrêtez de fumer. Donc, quand je les ai connus, ils avaient, je sais pas, 40 ans, ils en ont 60 maintenant. Et tous les deux, ils se traînent avec un emphysème ou une bronchite chronique et ils continuent à fumer. Alors, moi, je suis cool. Je continue à leur expliquer qu'il faut qu'ils s'arrêtent de fumer. Je continue à les soigner. Mais il y a de quoi être déprimé, quoi. Tu vois?
Eh ouais.
On est responsable de notre santé. Il faut faire en sorte. Alors, je ne suis pas du tout d'accord pour les pénaliser, hein, comme le proposent certaines mutuelles. On va fliquer les gens et s'ils ne s'arrêtent pas de fumer, on leur majore leur. Non, on ne va pas faire ça. On va continuer de les soigner. Mais surtout, il faut les éduquer, il faut leur
donner. C'est ça, on revient à la base de l'éducation. Si sur les, dès les premiers, les nouvelles générations sont éduquées dès la base, et c'est ce que promeut la Charte d'Ottawa aussi, l'éducation.
Absolument. J'avance sur les points que tu m'as dit.
La systématisation,
tout traitement de masse, massifié, systématique, ne respecte pas l'individu.
Évidemment.
Et ne respectant pas l'individu, ne va pas respecter un élément fondamental, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme génétique. Ça veut dire que nous sommes tous différents. Et en plus, pour simplifier les choses, pour simplifier et en même temps pour les rendre plus belles, puisqu'on est tous différents, et tu sais que même deux jumeaux homozygotes, au bout de, alors, donc issus du même œuf avec le même capital génétique, deux jumeaux qui sont issus de ça, vont être capable quelques années plus tard d'être très différent. Pourquoi ? Parce qu'en plus de la génétique, il y a l'épigénétique.
C'est ça.
Ouais. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe pour que notre capital génétique s'exprime ou ne s'exprime pas en fonction de ce que nos parents nous ont transmis aussi, qui n'est pas que génétique, mais aussi en fonction de l'environnement. Donc, tu vois, c'est une richesse absolue, mais ça, tout de suite, ça nous interroge en disant « mais on ne peut pas faire de médecine de base dans ces conditions, c'est impossible. Il faut pouvoir individualiser à tous les niveaux, et y compris au niveau des vaccins. C'est-à-dire qu'un petit gamin qui vivra dans un certain environnement, qui voyagera d'une certaine manière avec ses parents, qui sera dans X ou Y conditions, peut-être qu'il aura besoin qu'on le vaccine contre le tétanos, contre la polio, contre la rougeole s'il faut. Voilà. Un adolescent qui n'a pas fait les oreillons, un garçon... Oui, vaccinons-le contre les oreillons, parce que c'est embêtant de faire les oreillons à l'âge adulte. Tu vois, comment individualiser ?
Donc, d'adapter au contexte, d'individualiser.
Bien sûr.
Je vois en commentaire, ça chauffe un tout petit peu. Alors, il y a une question, il y a un commentaire qui a été posé, et du coup, je vais juste te le soumettre. Nous avons Guillaume qui nous dit « Le vaccin ne guérit pas, il prévient la maladie. » Est-ce que... Parce que de ce que j'entends, c'est qu'on donc le vaccin prévient la maladie, mais c'est pas que le vaccin qui prévient la maladie. Il y a aussi parce que quand on parle de chacun doit être acteur de sa bonne santé et que c'est pas systématique non plus. En quoi est-ce que c'est juste de dire ça et...
Alors le vaccin c'est un et d'ailleurs c'est bien parce que justement c'est le troisième point que je voulais aborder par rapport aux commentaires que tu avais fait précédemment. Aujourd'hui, quand on parle de campagne de prévention, écoutez tous, quand on parle de campagne de prévention, je vous donne en 1000, à 99%, on va parler de campagne de vaccination. On ne va pas parler de campagne d'éducation à la santé, on ne va pas parler de campagne d'éducation à l'activité physique, à l'alimentation, non, on va parler de campagne de vaccination. Et effectivement, le vaccin est un des outils ou pourrait être un des outils des campagnes de prévention, mais pas le seul. On ne va pas revenir sur tout ce que j'ai dit précédemment. L'auditeur a tout à fait raison, ou je ne sais pas si on parle d'auditeur ou de spectateur, là, en l'occurrence, mais a tout à fait raison, le vaccin ne guérit pas, sauf certaines sortes de vaccins qui sont faits des sérums, comme le sérum antitétanique qui existe et qui, en injectant ce sérum, donc en injectant d'une certaine manière des anticorps, des moyens de défense, on va pouvoir lutter contre une maladie, tétanos, qui aurait pu s'installer pour quelqu'un qui n'aurait plus assez ou pas eu de vaccination ou qui n'aurait pas les anticorps nécessaires pour réagir à un tétanos. Donc, mais globalement, en effet, le vaccin ne guérit pas, il prévient. Il est censé prévenir. Mais il est censé prévenir tout à fait de façon intéressante si derrière, et je vais un tout petit peu revenir sur cette notion-là, si derrière, il y a un terrain qui est capable de répondre. Quand est-ce qu'on va mesurer les anticorps vaccinaux, les anticorps qui succèdent à un vaccin ? Bon, moi, personnellement, je vais te dire, comme médecin, je vérifie les anticorps chez les adolescents qui n'ont pas été vaccinés dans l'enfance, par exemple, contre la rubéole ou contre les oreillons, et à l'adolescence, fille ou garçon, je leur demande une sérologie, donc une recherche d'anticorps des oreillons ou de la rubéole. Et en fonction, je vais proposer parfois aux familles de vacciner pour éviter qu'à l'âge adulte, on ait ce type de maladie. Mais par contre, quand on est vacciné contre cette série de vaccins, là, merci Madame Buzyn, 11 vaccins à la naissance, ben voilà, à la naissance, hein, enfin dans les premières semaines qui suivent la naissance, alors que ton système immunitaire n'est pas du tout mûr pour tout ça. Et puis, maintenant 11 échelonnés, plus ou moins échelonnés, mais la plupart en masse. Hein, les premières injections, c'est genre 6 stimulations antigéniques en même temps. Tu te dis, mais comment un petit bébé il va pouvoir subir ça? Donc, c'est se réinterroger, c'est oui, on peut faire de la prévention, mais comment? À quel moment? À quel moment? Est-ce que vacciner des vieillards qui ont un système immunitaire complètement à plat, les vacciner contre la grippe, c'est vraiment très opérationnel. À qui ça sert? À qui ça fait le plus de bien? Aux patients ou aux pharmacies? Moi, je sais. Je pose la question. Hein, j'y réponds pas, je pose la question. J'ai ma petite idée, mais je pose la question. Il faut, pour qu'une stimulation antigénique puisse avoir son effet préventif, il faut que le terrain, le système immunitaire, soit prêt à répondre.
Ouais, donc c'est là où le côté…
C'est une question qui est fondamentale. À quel moment on vérifie ça? Jamais. Jamais. On pense que le vaccin, c'est magique. On injecte et ça marche. Voilà. Donc, encore une fois, il n'est pas question de dire c'est bon, c'est pas bon. C'est juste comment vous utilisez cet outil merveilleux développé par la technologie pharmaceutique, mais qui est utilisé d'une façon massive et qui peut être contre-productif parce que, et je finis là, parce que contenant en plus des produits qui peuvent avoir des effets délétères chez certaines personnes en raison du polymorphisme génétique, de l'épigénétique, du fait qu'on est tous différents et qu'on peut réagir à des stimulations antigéniques, à des vaccins différemment et même avoir des effets indésirables à l'aluminium par exemple ou à d'autres adjuvants qui sont parfois contenus dans les vaccins.
Ouais, j'entends. Donc quelque part, bon, j'espère que ça répond à au commentaire de Guillaume qui nous sur Facebook qui disait que le vaccin ne guérit pas, il prévient la maladie. Alors c'est oui, mais il y a tout le contexte à prendre en compte et donc.
Valentin, ce qu'il y a de génial dans la médecine d'aujourd'hui et si j'ai des collègues qui partagent ce YouTube. C'est combien on a d'outils merveilleux. Par exemple, en hormonologie, c'est chez les femmes. On a des outils. On a des outils pour compenser les déficits hormonaux. Mais comment c'est utilisé? Combien sont les gynécologues, les endocrinologues à utiliser comme une sorte de palette de peinture tous ces outils pour venir compenser les sécrétions éventuellement défaillantes de certaines femmes? Et puis surtout, combien de médecins s'interrogent à pourquoi ces sécrétions sont défaillantes quand on sait par exemple qu'on fait la guerre à la principale molécule qui est à l'origine des synthèses d'hormones stéroïdes, d'hormones sexuelles, et que cette molécule, c'est le cholestérol, qui est une sorte de molécule diabolisée et dont on fait une guerre effrénée et absolument pas du tout pédagogique. Parce qu'en fait, cette molécule, elle est fondamentale. Et combattre cette molécule, c'est se mettre dans une situation de pathologie dite iatrogène. Tout à l'heure, j'ai évoqué la question des maladies iatrogènes. Les maladies iatrogènes, ça veut dire des maladies développées par des médicaments. Tu vois, comme par exemple, on utilise des tranquillisants, ce qu'on appelle les benzodiazépines, des anxiolytiques chez les personnes âgées, par exemple, qui ont eu beaucoup chez les personnes âgées, qui ont eu des chocs psychologiques, des deuils, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On accélère leur plongée dans la sénilité. On les fatigue, on accélère les risques de chute, les risques de perte de mémoire, la baisse de la libido, la baisse de l'envie, hein, du tonus. Et ça, simplement parce qu'on est dans l'automatisation.
Et oui. Mais d'ailleurs, tu vois, les labos vont souvent mettre en avant l'idée du rapport bénéfice-risque pour motiver en fait certaines décisions. Et qu'est-ce que tu penses de ça?
Ça, c'est intéressant. C'est intéressant qu'on puisse réfléchir à ce niveau-là. C'est la palette dont je parlais tout à l'heure. On a beaucoup de traitements en notre possession et il faut pouvoir peser en effet bénéfice et le risque. On a aujourd'hui, par exemple, des traitements anti-acides qu'on appelle inhibiteurs de la pompe à protons qui sont de vrais poisons, qui empêchent la sécrétion par les cellules de l'estomac, les cellules qui sécrètent l'acide chlorhydrique, de sécréter cet acide chlorhydrique. Si on était de fins peintres, des artistes, des artisans de la santé, de la médecine, on pourrait utiliser de temps en temps ces médicaments pour passer une crise, mais très peu. Pourquoi ? Parce que l'estomac, il est fait pour sécréter de l'acide. Si on se met à arrêter pendant des semaines et des mois la sécrétion acide au niveau de l'estomac, mais qu'est-ce qu'on fait ? On va à l'encontre du fonctionnement de l'estomac qui est de fabriquer de l'acide pour digérer des protéines. Si ces protéines, si ces molécules-là, ces nutriments, qui sont très importants pour l'organisme, puisque c'est grâce à ces nutriments que le corps va fabriquer justement des anticorps, va fabriquer du muscle, va fabriquer des hormones, va fabriquer des neuromédiateurs. Si on va à l'encontre de la digestion de bonne qualité en inhibant la sécrétion d'acide, eh bien, on va aller à l'encontre de la digestion de ces produits. Et qu'est-ce qui se passe ? Ben, c'est mal digéré dans l'estomac, ça va forcément être mal digéré dans les intestins, puisque ce n'est pas là que ça doit être digéré, hein, puisqu'il n'y a plus d'acide après, plus bas, au niveau du duodénum. Et qu'est-ce que ça donne ? Ben, ça donne une digestion de mauvaise qualité, des phénomènes de fermentation, de putréfaction, des effets sur le microbiote, des effets sur le système immunitaire. Donc, la palette de l'artiste, c'est de dire, tiens, j'ai un médicament merveilleux qui bloque pendant quelques jours la sécrétion d'acide de mon estomac. Tiens, je vais l'utiliser très peu de temps, juste pour que mon patient aille mieux. Mais pendant ce laps de temps-là, je vais lui apprendre à mâcher, je vais lui apprendre à manger, je vais lui apprendre à respirer, je vais lui apprendre à se relaxer, à faire du sport. Et puis, surtout, on n'arrêtera pas le médicament trop vite, on l'arrêtera progressivement, pour que l'estomac se réhabitue à travailler progressivement et qu'on n'ait pas tout à coup un pic à l'arrêt du traitement. Et là, tu as affaire à un artisan de la médecine qui utilise même de l'allopathie, c'est-à-dire même des produits chimiques, mais de façon subtile, intelligente. Comme un endocrinologue va tout à coup, à un moment donné, dire « Tiens, peut-être que cette personne à la ménopause, avec les symptômes qu'elle a, un petit peu d'estrogène, ça pourrait lui faire du bien ». On va équilibrer avec un petit peu de progestérone, mais peut-être pas tous les jours, peut-être à certains moments. Tu vois ?
Donc ce que j'entends quelque part, c'est qu'il y a une approche qui est très court terme et une approche qui est peut-être plus long terme, mais aussi une approche qui est sur l'émancipation des individus. Donc, d'utiliser les outils que la technologie et les innovations dans le domaine de la santé et de la médecine nous apportent pour pouvoir aider efficacement de manière spécifique, mais l'importance de l'éducation pour pouvoir émanciper les gens et de pouvoir équiper en fait sur le long terme les gens à être autonomes et responsables dans la gestion de leur santé, la gestion de leur bien-être. J'ai l'impression qu'il y a ces deux paradigmes en fait qui sont ici.
Alors, ce ne sont pas deux paradigmes, c'est un paradigme. C'est le paradigme d'une société qui permettent l'éducation du plus jeune âge, mais jusqu'au plus ancien, permettent l'émancipation, comme tu le dis, donc donne des outils à un individu de devenir acteur de sa vie, de son projet de vie, mais du coup aussi de sa santé, bien sûr. Mais c'est aussi le paradigme d'un système qui inscrit dans ce paradigme et cette société, inscrit dans ses dispositifs, un système de santé qui est individualisé, et qui est personnalisé, qui permet de rencontrer la personne, qui permet de la connaître, qui permet de mettre en lien un thérapeute. Et je ne parle pas de médecin, parce qu'il n'y a pas que les médecins qui soignent, il y a beaucoup de personnes qui soignent aujourd'hui dans la société, qui permet de rencontrer une personne qui va apporter sa vie, ses symptômes, ses soucis, à la rencontre d'une personne qui est censée l'écouter, la comprendre et chercher ensemble des solutions. C'est ce qu'on appelle l'éducation à la santé, c'est ce qu'on appelle le partenariat, la collaboration en santé. Et c'est ça le vrai paradigme. Et là, j'attire ton attention, et vraiment j'alerte toutes les personnes, il faut qu'on en parle de ça, d'un choix de société qui refuse la normalisation, qui refuse la massification. Ce n'est pas une société qui tourne le dos au progrès. Tu as utilisé une terminologie qui est très, très intéressante. Hein. Je ne sais plus ce que tu as dit, mais tu as parlé…
L'innovation.
Innovation, voilà. D'innovation, d'innovation en santé, de techniques de santé, de tout ça, il faut dire oui aux neurosciences, il faut dire oui à l'immunologie, il faut dire oui à la recherche, il faut pas du tout tourner le dos, mais il faut le faire. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il faut le faire en étant éclairé, et j'attire votre attention sur la question de l'intelligence artificielle. On est, avec cette histoire de Covid, super pour la téléconsultation. C'est très bien pour des gens qui n'ont pas accès à des médecins, ça peut être très bien, mais attention.
Pourquoi tu attires attention là-dessus ? Est-ce que c'est un enfer pavé de bonnes intentions ou c'est...
Tout à fait, Valentin, c'est un enfer pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire, les bonnes intentions sont des intentions d'accessibilité à la santé, absolument. Et ça, c'est important de se battre pour que le système de santé en France et de partout dans le monde soit un système équitable, soit un système qui permette à tout le monde d'être soigné dans de bonnes conditions, avec de bons traitements, par de bons médecins. On parle trop rarement de la formation des médecins qui, de mon point de vue, n'est pas suffisamment orientée vers la rencontre et vers la promotion et l'éducation à la santé. Oui. Mais malheureusement, les dispositifs comme la téléconsultation ouvrent la porte directement à leur robotisation. Parce que la téléconsultation, ça nous met face à un écran. Et demain, cet écran, ça va être comme les téléphones. C'est, vous avez mal à la gorge, appuyez sur la touche 1. Vous avez en plus un peu de fièvre supérieure à 38,5, appuyez sur la touche 2.
Alors, mais moi, si je me place d'un point de vue consommateur ou patient, ou client, même ici au Canada, les médecins parlent de client, je vois potentiellement un bénéfice de sortir mon téléphone et dire, bon, ben, je me sens pas bien, alors je vais passer par un algorithme qui va me faire un arbre de possibilités et je vais dire oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, et à la fin, qui va me donner un... Ouais. C'est quoi le danger pour toi?
On bascule dans un autre paradigme. On bascule, alors, qui n'est peut-être pas à refuser, hein. Je pense que l'intelligence artificielle pourra amener sans doute des progrès importants, mais il faut juste que ce soit canalisé, borné par des sages, par des experts, par des gens qui sont spécialistes de l'éthique, parce que ce vers quoi on va aller, c'est vers de la robotisation et vers de la massification, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'on cherche à faire en santé. Alors après, tu vas me dire, oui, mais peut-être qu'on nous enfilera une petite sonde dans la bouche ou une petite sonde dans le derrière, ou peut-être simplement à travers la peau grâce à des techniques qui permettent de mesurer ce qui se passe dans le sang, comme on le fait aujourd'hui avec les diabétiques qui ont des dispositifs très sophistiqués pour mesurer le sucre à travers par des capteurs. On arrivera à avoir des informations et immédiatement savoir le statut micronutritionnel des gens, leur génome, les conditions d'épigénétique, etc. Oui, sûrement. Mais alors, ce sera une société où, en effet, c'est bienvenu à Gattaca, c'est-à-dire ceux qui vont rentrer dans le moule, qui seront des gens qui auront le génome qui va bien, l'épigénétique qui va bien, hein, ils iront dans un coin et puis les autres, ils iront dans un autre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser la place à l'humain. Peut-être, et je pense que la téléconsultation, c'est un outil intéressant, mais qu'il faut laisser entre les mains d'humains, et éviter de basculer dans la robotisation à tout craint de la santé. Je pense que ça va pouvoir aider, et ça peut aider d'ailleurs en chirurgie, mais moi, personnellement, qu'il y ait un chirurgien derrière le robot, franchement, je trouve ça génial. Parce qu'effectivement, ça va éviter ou ça va préciser certaines choses. Mais que derrière le robot, il y a un robot, franchement, ça ne me branche pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Que les humains deviennent des espèces d'objets passifs. Et c'est ça le paradigme, être acteur ou ne pas être acteur, tu vois. Et c'est là où il faut être très, très intuitif. Et ça nous ramène au sujet de notre échange.
Discussion, oui.
Le vaccin, un choix de société, ou le système de santé, un choix de société.
C'est responsabiliser ou déresponsabiliser, quelque chose de normatif ou au contraire d'individualiser qui prend... Ouais. Donc, quelque part, ce que j'entends, c'est que tu nous encourages à repenser le système de pensée, pas nécessairement le vaccin en tant que tel, mais les grandes questions de quelle est la place de l'humain et quelle expérience de vie humaine, en fait, on veut avoir. et que la santé, en réalité, même si quand on regarde un rapport bénéfice-risque sur les données, bon, c'est peut-être même pas là le débat. En fait, il y a des questions beaucoup plus macro qui sont importantes et de considérer les méfaits, quelque part, d'un système de santé qui va être beaucoup plus normatif, intrusif. Et quelque part de repenser la position la place des médecins de famille aussi comme éducateurs et avoir ce rapport en fait pour permettre l'émancipation de chaque individu.
La massification n'est pas une bonne idée. La massification rend les gens passifs. La massification avec les messages, on l'a vu avec le Covid, la massification simplifie les messages. Alors il y a des débats d'experts dont on capte quelques morceaux et on pense que du coup c'est blanc ou c'est noir, mais c'est pas comme ça. Il y a des traitements dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines qui sont efficaces au début de la maladie pour le Covid et qui le sont moins en fin de maladie quand on a affaire à des cas graves à un niveau où le système immunitaire de toute façon ne répond plus de la même manière. Faire des études à la fin sur des cas graves avec le même traitement et dire ce traitement ne marche pas, évidemment qu'il ne marche pas, puisqu'il n'est pas fait pour être utilisé à la fin sur des situations gravissimes, sur des situations où le système immunitaire a été complètement débordé. C'est pour ça que ces débats d'experts, il faut avoir tous les éléments pour pouvoir en juger. Et aujourd'hui, la massification, la pensée unique, le fait que les médias s'emparent de sujets pour lesquels ils ne sont pas experts et pour lesquels il faut vraiment avoir une connaissance très, très, très large pour pouvoir aborder, ça fait tourner la population comme une girouette et surtout ça permet à des pouvoirs économiques, industriels, politiques de manipuler les gens, tout simplement. Moi j'attire l'attention sur le fait que le système de santé doit rester à échelle humaine et qu'un enfant qui arrive avec sa maman, qui vient de naître, qui arrive en consultation et pour lequel le premier acte que l'on pose c'est de dire « petit enfant, je vais te balancer 11 vaccins dans les fesses », pour moi c'est terrifiant, parce que c'est pas ça la prévention, c'est pas ça la santé. La santé, c'est avec ta maman, on va parler de ton hygiène, on va parler de ton allaitement, on va parler de ta nutrition, on va parler de tes poussées dentaires, on va parler de tes coliques si tu en as et pourquoi tu en as, qu'est-ce que ta maman mange, qu'est-ce qui fait que tu as des coliques? Peut-être qu'il y a eu des coliques par ailleurs dans la famille et que peut-être il y a une sensibilité, un petit intestin ou un grand, ce qu'on appelle un mégacolon, ou peut-être autre X ou Y pathologie ou X ou Y caractéristique. Il faut personnaliser l'approche avec les patients. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Et donc, le vaccin peut être un outil, bien sûr, mais un outil qui permet de travailler dans l'individualisation. Ne pas permettre aux gens de discuter avec leurs médecins et déresponsabiliser les médecins, par exemple, dans les campagnes de vaccination en disant « on va massivement vacciner systématiquement tout le monde de la même manière », c'est contre-productif. Le médecin, il connaît son boulot, il connaît ses patients, il doit être responsable, il doit avoir une connaissance, et ça, il faut travailler sur cette connaissance-là, il doit avoir une connaissance suffisante pour lui permettre de dire à une personne « voilà madame, pour votre bébé, ce qu'on va faire ». Ça va être comme ça parce que votre enfant ne rentre pas en collectivité avant 2 ans. Eh bien, voilà ce qu'on va faire. À partir d'un an et demi, 2 ans, il va rentrer en collectivité. Voilà ce qu'on va faire, etc., etc. Les vaccins, ce sera à tel moment et ce sera tel vaccin parce qu'en effet, il y a tel risque, il y a tel bénéfice, etc., etc. Donc, voilà, là, tu fais du lien avec notre sujet, c'est-à-dire un choix de société apprenante, un choix de société où le savoir, les savoir-faire,
inclusive,
les savoir-être inclusifs, tous ces savoirs de toutes leurs formes sont partagés et partageables parce qu'on a des interlocuteurs qui sont éduqués. Tu vois ?
Eh ben, j'entends. Donc, quelque part, c'est une société qui est intégrative, hein, qui intègre en fait l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler la vie et dans les connaissances, donc les différentes...
Et on ne l'a pas dit, mais on l'a dit dans des émissions précédentes, et qui repositionne l'humain à sa place, c'est-à-dire comme un petit mammifère qu'il est industrieux, inventif, créatif, intelligent, mais qui ne doit pas dévorer la Terre, qui doit faire avec son environnement et qui doit faire surtout avec les autres espèces qui vivent sur la planète, qui sont aujourd'hui exploitées, harcelées, maltraitées, complètement dévasté que ce soit la faune, la flore, les minéraux, les ressources pétrolières, les ressources minérales, minières, enfin, toutes les ressources sont puisées au bénéfice de l'homme, il faut arrêter. Et donc, oui. Voilà, le paradigme, la société pour laquelle il faut tous s'engager, c'est celle-là. C'est une société qui est respectueuse, respectueuse de l'environnement, respectueuse de l'individu, et personnalisée, et du coup, équitable et solidaire.
Super, mais Frédéric, merci beaucoup. C'est effectivement la clé. Si on devrait retenir une chose, c'est de repenser la place de l'homme dans notre, pas la société, mais dans notre réalité, dans notre monde. La nature de l'homme, nous faisons partie de la nature, nous sommes mammifères, comme tu l'as dit, et nous sommes aussi, chacun de nous est unique. Et il y a cette complexité, cette richesse quelque part qui doit être prise en compte. Donc sur la question des vaccins, c'est de considérer le vaccin comme une innovation technologique, une innovation dans le domaine de la santé, mais de favoriser surtout l'émancipation des individus, de ces communautés, d'avoir des politiques de système de santé qui pourraient être précurseurs et innovantes dans un respect et une protection de l'environnement qui sont aussi intégratives de la vie et de la terre, quelque part. Donc, c'est ça le paradigme à avoir. Je vois que tu as envie de réagir.
Oui, travailler les outils pour les médecins qui sont en première ligne, travailler ces outils-là, leur apprendre, leur dire que c'est pas, il n'y a pas de, il n'y a la norme, la normalisation n'est pas bonne. Sortir la même ordonnance pour tous les patients qui ont une angine, c'est pas ça. Il faut savoir si le patient, si les maux de gorge, ils arriveraient de façon récurrente, s'ils arrivent après avoir mangé certains aliments, s'ils arrivent systématiquement à certaines saisons. S'il y a des éléments inflammatoires qui sont d'origine allergique, d'origine alimentaire, d'origine environnementale, si c'est vraiment microbien, il faut savoir faire des prélèvements, des contrôles. Il faut s'appuyer sur la science. Il faut vraiment s'adosser à ce qu'on a. Encore une fois, ne pas lui tourner le dos. Il faut outiller aussi bien les citoyens, les individus. Il faut les outiller politiquement, philosophiquement, éthiquement. Mais il faut aussi outiller les professionnels, quels qu'ils soient, y compris les militaires, les policiers, tout le monde. Il faut outiller les gens en savoir humain, en savoir-faire, encore une fois, en savoir-être. Et comme ça, on a une société qui a des piliers qui sont solides et qui sont équitables, tu vois. C'est ça le truc. C'est,
voilà. 100%. D'ailleurs, j'encourage tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent à consulter ce qu'est la charte d'Ottawa. On en a parlé dans une première émission, une première conversation avec Frédéric. Mais en fait, c'est un document qui met en avant plusieurs piliers de ce qu'est la promotion de la santé et du bien-être dans notre société. C'est une lecture qui est relativement facile à faire, en fait, quand on regarde le résumé de ce qu'est la charte d'Ottawa. Donc, si vous voulez aller plus loin dans ce sujet-là et pour aller plus loin dans la compréhension de ce que c'est, c'est peut-être une lecture que j'encourage à faire. Frédéric, est-ce qu'il y a autre chose?
Elle est consolidée par la charte de Bangkok. Hein. Derrière la charte d'Ottawa, il y a eu une charte beaucoup plus politique qui voulait vraiment créer une dynamique politique en appui à la charte d'Ottawa, qui s'appelle la charte de Bangkok et qui est aussi intéressante. Et qu'on aimerait que ces chartes soient mises en œuvre par les pays qui ont été signataires, et il y en a eu de nombreux.
Super, et toujours dans le côté peut-être intellectuel, mais aussi qui peut parler à l'aspect créatif de notre humanité. Frédéric, est-ce que tu as un bouquin ou de la musique ou des choses que tu aimes bien, que tu aurais envie de partager avec nous, avec ceux qui regardent aujourd'hui?
Alors oui. J'ai pendant ce confinement, j'ai écouté Jacques Tati. Je vous l'avais déjà. Jacques Tati. Non. Eric Satie, je vous l'avais dit. J'aime bien les films de Jacques Tati aussi, mais non, ce n'est pas Jacques Tati. Et là, j'ai aussi beaucoup écouté le Stabat Mater de Pergolèse. Ouais. Je crois que tu as une image aussi, mais c'est une merveilleuse interprétation avec Anna Nebretko, que j'aime beaucoup, et Mariana Pizzolatto. Vraiment, c'est un moment, un merveilleux moment de musique.
Voilà, donc si vous pouvez trouver, c'est Anna Nebretko et Mariana Pizzolatto. On va pouvoir donner le lien aussi dans les commentaires.
Et puis j'encourage, je me réfère souvent à l'homme dans la nature, et j'encourage vraiment les gens que ça intéresse à lire un roman, enfin une série de romans qui s'appelle Les Enfants de la Terre. je pense que pareil, tu as une image. C'est Jean M.O.L. Et les enfants de la Terre nous amènent dans une sorte de saga générationnelle, mais enfin portée par une ancêtre qui s'appelle, je ne sais plus d'ailleurs comment elle s'appelle, mais elle est formidable. Et de la petite enfance où elle va être élevée par plusieurs tribus néandertaliennes, puis de Cro-Magnon, elle va apprendre des choses sur la nature, sur la vie, sur l'existence, la survie en pleine nature. Et c'est un écrit absolument enthousiasmant qui est basé sur des recherches en paléologie, c'est ça, qui sont fiables, qui sont référencées. Et donc, je vous encourage à lire Les Enfants de la Terre pour ceux qui voudraient cet été prendre du bon temps sur la plage ou à la montagne avec un bon bouquin.
Super. En tout cas, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et merci à toi, Frédéric, d'avoir répondu présent pour l'invitation pour cette troisième pause café. C'est toujours un plaisir. Je sens qu'on pourrait encore parler pendant des heures. Malheureusement, c'est déjà la fin de notre pause café aujourd'hui. Peut-être qu'on se retrouvera pour une prochaine, on ne sait jamais. Si vous êtes sur Facebook et sur YouTube en ce moment, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ce contenu. Ou un commentaire pour nous dire comment vous avez trouvé. Je sais qu'il y a certaines questions qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions qui ont été posées. Peut-être qu'on reviendra vers vous en commentaire. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube. Il y a un petit bouton en bas à droite ici de la vidéo. Vous pouvez vous abonner, activer les notifications. Avec Humans Link, on poste du contenu régulièrement. D'ailleurs, en parlant de prochain contenu, mercredi prochain, on a un autre format de live, c'est l'Instant T. Où on vous encourage à venir nous rejoindre. Et avec Jean-Jacques French, cofondateur de Humans Link, on pourra répondre à vos questions en direct. Et d'ailleurs, on a une nouveauté, c'est un numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez nous texter vos questions, vos témoignages, vos commentaires. Si vous souhaitez participer au Post Café ou à l'autre format qui est l'Instant T, n'hésitez pas, ce numéro est fait pour vous. C'est le +33 01 87 16 52 11. Il s'affiche à l'écran en ce moment. Vous pouvez le noter et nous texter. On vous répondra. Hop. Et voilà. Merci à tous. Merci Frédéric. Soyez humains. Soyez extraordinaires. À bientôt. À très vite.